Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 24 octobre 2016, voici le journal d'Amélie Perrier, bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une évacuation humanitaire pour le gouvernement, une nouvelle embûche pour beaucoup de migrants, le démantèlement de la jungle de Calais débute ce matin, nous irons sur place dans un instant.
Et nous nous demanderons si l'évacuation des 6 à 8 000 étrangers réglera le problème avec Adrien Taufolet.
La gauche et plus particulièrement François Hollande peut-il calmer la colère des policiers? Le chef de l'État reçoit les syndicats mercredi, des syndicats eux-mêmes débordés par une base exaspérée.
La Belgique a jusqu'à ce soir pour sauver le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, bloqué par un veto du Parlement. Wallon, la dernière proposition de l'Union européenne, n'a pas convaincu le gouvernement régional.
Et l'Espagne sur le point de sortir de plus de 300 jours de paralysie politique. Les socialistes renoncent à barrer la route au conservateur Mariano Rajoy pour former un nouveau gouvernement. Ils évitent ainsi une troisième élection en un an, trop risquée pour eux. Pour certains, c'est la fin d'un bidonville indigne pour la République. Pour d'autres, un simple déplacement du problème. Et pour beaucoup de migrants, les premiers concernés, un obstacle de plus dans leur long exode vers l'Angleterre. L'évacuation de la jungle débute en ce moment même à Calais. Bonjour Adrien Taufolet.
Bonjour Amélie.
Vous êtes sur place pour France Culture. Alors c'est une opération de grande ampleur qui s'amorce devant vos yeux.
Oui, de grande ampleur, 6 400 migrants selon la préfecture, 8 400 selon les associations vont être évacués de la jungle encadrés par un important dispositif policier. Ça commence maintenant et ça s'étalera sur toute la journée. 60 bus partiront aujourd'hui, 45 demain et 40 mercredi si besoin. Plusieurs centaines de migrants sont déjà devant les grilles du SAS dans le froid et ils entrent dans cette gare routière. Dedans, ils sont triés, majeurs, personnes vulnérables, familles et mineurs étrangers isolés. Ces derniers vont rester à Calais pour l'instant. Tous les autres, maintenant, vont monter dans des bus, direction les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, 450 répartis dans tout l'Hexagone. C'est là qu'ils pourront faire leur demande d'asile et devenir donc réfugiés s'ils le souhaitent.
Merci beaucoup Adrien Taufolet. Alors c'est toute la question, le démantèlement du camp va-t-il résoudre le problème? Les migrants vont-ils renoncer au passage vers le Royaume-Uni? Je vous propose d'écouter votre reportage Adrien, tourné dans la jungle hier.
Pour la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bouchot, le message à faire passer est clair.
Le message, c'est le camp de la Lande, grâce à l'opération mise en place, ne sera plus.
Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de migrants à Calais. Environ 85% d'entre eux seraient demandeurs d'asile, mais les concernés n'ont pas encore tous fait leur choix. À Edir est soudanais, il ne sait pas ce qui l'attend demain, alors il vient d'écrire sur sa tente les mots « Police, do not destroy my home ». Des bénévoles nous ont dit que la police allait venir tout détruire. La vie n'est pas bonne ici, il y a trop de monde. Moi je vais aller dans un centre d'accueil, mais personne ne m'a dit si je pouvais y aller. C'est pour ça que j'ai marqué ça, alors je m'en fiche, j'attends ici. Lui fait partie de ceux qui veulent rester, mais ils sont déjà nombreux à être partis. François Guénoc est le vice-président de l'association L'Auberge des Migrants.
Mi-septembre, on avait compté 10 200 personnes sur le camp. On en a trouvé 8 300. Beaucoup de gens sont partis déjà.
Partis pour éviter les centres d'accueil ou de rétention et pour atteindre leur rêve, l'Angleterre. Oumar Hassan, somalien, a multiplié les tentatives ces derniers jours et compte bien tenter une dernière fois avant la fin de la jungle. Je veux aller en Angleterre, mais c'est difficile. J'ai déjà essayé plein de fois, mais la police m'a toujours attrapé et hop, de retour à la jungle. J'aimerais que les gouvernements trouvent des solutions pour nous, car c'est trop dur de vivre comme ça. Ce soir, je retente ma chance et si Dieu veut, je serai en Angleterre. Je n'ai pas de meilleure solution. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Malgré le dispositif, ils seront probablement nombreux à revenir dans le coin, juste le temps que le démantèlement passe.
Voilà un reportage d'Adrien Taufolet, l'envoyé spécial de France Culture dans la jungle de Calais. L'autre question, c'est l'accueil des migrants un peu partout en France, dans des CAO, en milieu rural souvent. Dès hier, des manifestations ont eu lieu dans le Vaucluse, par exemple, à la Tour d'Aigue. 200 sympathisants du Front National se sont retrouvés face à 500 personnes d'un collectif de citoyens favorables à leur accueil. Et puis en Haute-Loire, environ 2000 personnes ont gravi hier le mont Mézinc, lieu traditionnel des rentrées médiatiques de Laurent Wauquiez, le président. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes refuse l'arrivée de migrants dans les communes de la région. Une semaine chargée, décidément, pour le ministère de l'Intérieur, puisqu'outre la jungle, la place Beauvau est attendue au tournant par les policiers en colère. Les syndicats seront reçus par le président François Hollande mercredi. Des syndicats débordés par une base éprouvée, exaspérée, surtout depuis l'agression d'une patrouille en Essonne au début du mois. Le mouvement pourrait s'avérer difficile à désamorcer, donc surtout pour François Hollande, pas pas vraiment en position de force, Stéphane Robert.
Il faudra de l'écoute et du dialogue, indique-t-on du côté de l'Élysée, et puis aussi rappeler ce qui a été fait en matière de sécurité sous ce quinquennat. C'est d'ailleurs déjà ce à quoi s'emploie le chef de la police nationale, Jean-Marc Falcone. Dans une interview au Journal du Dimanche hier, il s'est attaché à montrer les efforts qui ont été faits en matière de recrutement et de moyens alloués, notamment pour le remplacement du parc automobile. Et puis Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, lui s'est rendu hier dans deux commissariats du sud-est parisien pour écouter les doléances et il a reçu deux policiers venus lui parler du mouvement de protestation. Mais cette flambée de contestation sera politiquement très difficile à dénouer déjà. À cause des maladresses de la semaine dernière, Jean-Marc Falcone a saisi l'IGPN, la police des polices, pour qu'elle enquête sur les premières manifestations spontanées. Et Bernard Cazeneuve s'est quant à lui décrédibilisé en employant le terme « sauvageon » pour désigner ceux qui ont tenté d'assassiner quatre policiers à Viry-Châtillon le 8 octobre, ce qui lui a valu des appels à la démission dans de nombreuses manifestations. Et puis ce sera compliqué surtout parce que ce mouvement semble être le fruit d'un malaise qui s'est installé depuis des années. Qu'il révèle un divorce entre d'un côté l'encadrement et les organisations syndicales et de l'autre la base, et qu'en cela il échappe à tout contrôle hiérarchique. Et enfin ça s'annonce difficile parce qu'on a du mal à entrevoir comment un président de la République complètement démonétisé, dont on se demande désormais s'il pourra briguer un second mandat, pourrait réaffirmer une certaine autorité et reprendre la main sur ce dossier.
La politique, c'est aussi la gauche. En ordre dispersé, ce week-end, le Premier ministre Manuel Valls a appelé au rassemblement, provoquant quelques réactions épidermiques, notamment des candidats déjà déclarés à la primaire, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. « Je ne suis pas là pour me rallier à qui que ce soit avant le premier tour des primaires », a lancé Hamon. « C'est quand la maison brûle qu'on veut rassembler la famille », s'est interrogé pour sa part le directeur de campagne de Montebourg, François Calfon. La gauche à l'aube des primaires, on y revient dans le billet politique de Frédéric Saïs, juste après ce journal. Manuel Valls attendu en clôture cet après-midi des premières rencontres nationales contre la radicalisation. 13 000 personnes ont été signalées comme radicalisées à différents niveaux, dont environ 2 000 mineurs. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est surtout de mobiliser les acteurs de terrain et notamment les maires, Mathilde Dehimy.
Chalon-sur-Saône est l'une des premières à s'être dotée d'une cellule municipale sur la radicalisation. Échange d'informations entre le maire, la préfecture et les renseignements sur la base d'indices recueillis par une trentaine d'agents. Le maire Gilles Platret.
C'est des agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être amenés à repérer les indices de radicalisation. Ça peut être dans la tenue vestimentaire, dans les propos qui sont tenus, dans les habitudes alimentaires. Il faut qu'il y ait addition de plusieurs signaux faibles pour vraiment que l'indice soit fort.
Il faut que ces agents soient bien formés pour éviter toute confusion, prévient Benjamin Herbibou. Son association niçoise, entre autres, forme des médiateurs sociaux, des policiers et des agents municipaux.
Porter un voile du jour au lendemain, ce n'est pas de la radicalisation. On leur apprend à affiner leur regard et surtout tendre l'oreille, puisque c'est dans le discours et pas dans les apparences qu'on peut véritablement déceler s'il y a radicalisation ou pas.
Les agents sont ensuite formés à proposer un discours différent, mais toutes les communes n'ont pas besoin d'une grosse organisation, plutôt de conseils et de vigilance de la part de tous, explique Christian Glisch, le maire de Wissembourg, d'où est originaire l'un des terroristes du 13 novembre.
Même ici, les discours de Daesh peuvent toucher nos jeunes. On a eu des cas de jeunes filles d'origine chrétienne traditionnelle qui, à un moment, se sont laissés embrigader et ça s'est fait dans des villages.
Une radicalisation qui se fait via Internet. Là aussi, le maire de Wissembourg demande des échanges et des outils pour lutter contre ce phénomène.
8h08 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier dans l'actualité. Ce matin également, l'ultimatum lancé à la Belgique.
Oui, elle a jusqu'à ce soir pour dire si elle pourra signer ou non le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. La Belgique bloquée par le veto d'un de ses parlements régionaux, celui de la Wallonie. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Amélie, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles ce matin. Alors une nouvelle proposition de texte a été faite aux Wallons, proposition refusée. Et à l'instant, on apprend que les Wallons affirment qu'il ne sera pas possible de respecter l'ultimatum, Quentin.
Oui, et pourtant parallèlement au sommet européen jeudi et vendredi et tout au long du week-end se sont déroulés nuit et jour des allers-retours incessants entre Bruxelles et Namur, l'enfin célèbre capitale de la Wallonie. Au moins une demi-douzaine de modifications ont été apportées au texte explicatif proposé aux élus wallons par la Commission européenne et par le Canada, mais jusqu'ici, vous le disiez, sans succès. Aux dernières nouvelles, des incompréhensions subsisteraient encore quant à la thématique de la protection des investissements. On ne peut pas être plus précis, malheureusement, puisque les Wallons sont loin de pratiquer eux-mêmes dans la négociation actuelle la transparence qu'ils reprochaient aux négociateurs du CETA d'avoir négligé cet an durant. pour des raisons autant pratiques que de courtoisie, la réponse définitive de la Belgique devra nécessairement être donnée d'ici la fin de cette journée afin de maintenir ou d'annuler la venue à Bruxelles du Premier ministre canadien Justin Trudeau prévue mercredi pour un sommet et la signature du CETA jeudi. Les Wallons croient à cet égard pouvoir parler d'inacceptable ultimatum. En attendant, le Premier ministre belge, Charles Michel, lui-même wallon, réunit aujourd'hui un comité fédéral de concertation qui rassemble l'ensemble des régions et communautés fédérées, Flandre, Wallonie, Bruxelles, néerlandophones, francophones, germanophones. L'issue en est au mieux incertaine. Pour les milieux européens, notamment, la persistance du refus wallon ne s'explique que par la volonté du Parti socialiste belge francophone, talonné dans les sondages par le très marxisant Parti du Travail, de se montrer plus radical que ce dernier. On vit ici le même scénario qu'au Royaume-Uni ou en France, disait en marge du sommet un diplomate italien, avec Cameron qui court derrière le UKIP ou Sarkozy qui cherche à déborder le Front National.
Quentin Dickinson, merci beaucoup en direct ce matin de Bruxelles pour France Culture. Les Espagnols n'auront pas battu le record belge sans gouvernement et personne ne s'en plaindra de l'autre côté des Pyrénées. Les socialistes espagnols ont décidé de laisser le champ libre au conservateur Mariano Rajoy pour former un nouveau gouvernement. En comité fédéral hier, ils ont décidé de s'abstenir lors du vote de confiance et d'éviter ainsi aux électeurs de se rendre aux urnes une troisième fois en un an. Un scrutin où le PSOE risquait de reculer encore face aux anti-austérités de Podemos. C'est une correspondance à Madrid de Marie-Hélène Ballesteros.
La donne a changé en Espagne ce week-end. Comme prévu au cours d'un comité fédéral historique du PSOE qui s'est tenu hier à Madrid, les socialistes ont décidé de laisser Mariano Rajoy former un gouvernement. Un choix crucial qui permet donc à l'Espagne de sortir du blocage politique et éviter de nouvelles élections, mais qui n'est pas sans conséquences pour le PSOE, comme le souligne Francesco Manetto du quotidien El País.
On va voir comment le PSOE va défendre son abstention après avoir dit le contraire pendant des mois. Ils avaient toujours maintenu leur veto contre Rajoy pour que le PP ne puisse pas gouverner. On va voir qui va expliquer ce changement. Personne ne peut savoir quel sera l'impact de leurs décisions à moyen et long terme. Mais à court terme, le PSOE restera fracturé et plongé dans une crise très dure, sans précédent et très traumatisante.
Et tandis que le PSOE va tenter de panser ses blessures, pour Mariano Rajoy, les choses semblent s'arranger. Demain après-midi, il sera le dernier à être reçu par le roi Felipe VI, qui devrait le désigner comme candidat à l'investiture. Une investiture qui doit avoir lieu impérativement cette semaine, avant le 31 octobre, sans quoi le Parlement devra être dissous et un troisième scrutin convoqué en décembre. Le timing est donc très serré. Rajoy ne devrait pas être élu au premier vote d'investiture où la majorité absolue est nécessaire. Il devra attendre le deuxième vote, 48 heures plus tard, qui aura lieu samedi ou dimanche prochain. Il lui suffira alors que les oui l'emportent sur les non. Et c'est là que l'abstention des députés socialistes sera fondamentale pour que Rajoy puisse former son gouvernement.
Marie-Hélène Ballesteros à Madrid. La crise politique au Venezuela cette fois. Le Parlement dénonce un coup d'État du camp du président Nicolas Maduro. Le pouvoir a en effet suspendu le processus de référendum pour révoquer le chef de l'État. Dans une résolution, l'Assemblée nationale a décidé hier soir, je cite, de déclarer la rupture de l'ordre constitutionnel et l'existence d'un coup d'État commis par le régime de Nicolas Maduro. Et l'Assemblée invite le peuple du Venezuela à la défense active de la Constitution. Le Parlement en appelle également à la communauté internationale pour ramener la démocratie dans le pays. À l'étranger encore, l'offensive se poursuit en Irak en direction de Mossoul. À la manœuvre, l'armée irakienne, mais aussi 10 000 combattants kurdes, ce qu'on appelle les Peshmerga. Cela ne plaît pas forcément à la Turquie. Hier, le secrétaire d'État américain à la défense, Ashton Carter, était dans la capitale du Kurdistan irakien, Erbil. Il s'est entretenu avec le président kurde, Massoud Barzani. Il a esquissé le prochain axe de la lutte contre Daesh, Raqqa, en Syrie. Et pour cela, il faudra une coordination parfaite entre toutes les forces de la coalition. Oriane Verdi.
Ashton Carter a rappelé à Erbil son soutien aux Peshmerga. Il a également demandé aux forces kurdes de continuer d'agir en coordination avec l'armée irakienne. Les Peshmerga se battent actuellement sur le front de Bachika, au nord de Mossoul. Sur la montagne, surplombant les combats, des canons turcs appuient les forces au sol. Officiellement, pourtant, les Peshmerga ne reçoivent aucun soutien des troupes turques installées non loin de là. De fait, le premier ministre irakien a récemment réitéré son opposition à la participation des forces turques dans la reprise de Mossoul. Il les considère comme des forces d'occupation. Elles ont été invitées en Irak par le gouvernement régional du Kurdistan. L'une des principales missions du secrétaire d'État américain à la défense est donc de garder un semblant d'unité entre les différentes forces positionnées autour de Mossoul. Les détails de la participation des forces turques sont toujours en négociation avec Bagdad et elles pourraient être l'un des sujets de dissension rendant plus difficile la libération de la deuxième ville d'Irak.
Oriane Verdier, notre correspondante à Erbil, au Kurdistan irakien et dans un Irak en guerre, voilà une polémique plutôt inattendue. La classe politique s'est embrasée ce week-end à Bagdad après le vote au Parlement de l'interdiction de l'alcool. Interdiction d'importer, de produire et de vendre de l'alcool. Un article inséré en toute discrétion dans un projet de loi sur les municipalités. Les opposants au texte s'insurgent aujourd'hui, dénonçant un vote anticonstitutionnel et les priorités hors sujet des partis religieux qui dominent le Parlement. En Irak, où la population est en grande majorité musulmane, la consommation d'alcool est relativement répandue. Le pays produit même de la bière et de l'arak. On termine par le temps de ce lundi en France. Une dégradation va traverser quasiment tout le pays avec de la pluie, des bandes brouillard ce matin, des fortes rafales de vent sur les Pyrénées notamment. Les températures 6 à 11 degrés au petit matin. Et puis cet après-midi, on attend 12 degrés à Lille, 14 à Paris, 15 à Rennes, 18 à Dijon, 21 à Toulouse et 25 degrés pour Marseille, Guillaume Erner.